Oui, c'est bon pour moi.
C'est bon. Bon. D'accord. Et... Bien. Alors, je voudrais regarder d'un peu plus près comment se passe cette sortie d'Égypte. Alors, ça commence. Évidemment, l'arrière-plan, c'est le fait que les Bnei Israël sont esclaves, mais ils sont esclaves, mais c'est la réalisation de la promesse qui a été faite à Abraham Avinu dans Brit Ben Abtarim. Hachem avait dit à Abraham Avinu que ses ancêtres, tes descendants, seront esclaves pendant 400 ans dans un pays étrangers, où on les fera souffrir, etc. Alors, on en est là. Et mon cher Abénou, quand il est berger de Yitro, il a cette fameuse rencontre avec le buisson ardent où Hachem lui dit, lui ordonne d'aller sortir les Bnei Israël de Mitzrayim. Et mon cher Abbé nous va refuser. Il va refuser, pendant une semaine, il va résister. Il refuse pour, disons, plusieurs raisons. Il y a une raison qui est qu'il ne veut pas marcher sur les plates-bandes de son grand frère Aaron. Aaron est sur le terrain, c'est lui qui soutient tout le monde. Et lui, il ne veut pas marcher sur ses plates-bandes. Et la deuxième chose, c'est que quand Hachem lui dit, tu vas aller parler au Bnei Israël, alors il demande à Hachem, mais ils vont me demander, ils vont pas me faire confiance comme ça, ils vont me demander qui t'envoie. Qu'est-ce que je leur dirai? Alors Hachem dit, je sais bien que, en vérité, c'est toi qui veux connaître mon nom. C'est-à-dire, cette question, c'est un prétexte un peu, mais tu veux connaître mon nom? Ben, mon nom, c'est Eke Asher Eke. Je serai qui je serai, et Hachem interprète, dans le contexte actuel, le Eke Asher Eke en disant, je dis-leur que je serai avec eux dans les exils ultérieurs, comme je suis avec eux dans cet exil-là. Et là, du coup, mon cher Abbé nous dit, mais alors, ça se vend pas, ça c'est pas possible. Je peux pas venir leur dire, écoutez, vous allez sortir d'Égypte, mais je vous rassure, il y aura d'autres exils, vous aurez d'autres souffrances, ne vous faites pas de soucis, il y aura d'autres. Évidemment, c'est pas comme ça que on peut faire accepter par les Bnei Israël. Et donc, mon cher Abbé ne résiste. Hachem lui il va se fâcher avec lui. Il va lui dire d'abord, tu rentreras pas en Eretz Israël. Et deuxièmement, comme mon cher Abbé nous disait qu'il pouvait pas parler, etc. Alors, Hachem dit, c'est Aaron, ton frère, c'est lui qui va parler. Toi, tu seras son Dieu et lui sera ton prophète. C'est lui qui parlera à Paro. Mon cher Abbé nous ne qui va parler avec Hachem, il n'a pas, il peut pas parler avec cet idolâtre de Paro. Donc on nous dira que c'est Moshe qui parle, c'est toujours Aaron qui parle. Moshe ne parle pas avec Paro. Bon, finalement, donc Moshe est obligé, il y va. Et donc, il parle au Bnei Israël, comme vous savez, c'est mal reçu, etc. Mais finalement, les Bnei Israël vont sortir. Ils vont sortir d'Égypte. Et à un moment donné, Il va se passer quelque chose de très important. Va prendre les choses de cette manière-là. Il y a Asara Mahamarot, il y a 10 paroles d'Hachem qui sont des paroles performatives qui font que Hachem a créé le monde. Et comme dans le récit de Sefer Bereshit, au début, il y a, disons, 10 occurrences du mot Vayomer. En fait, il n'y en a que 9, mais bon, on va pas entrer là-dedans. Il y a 10 occurrences du mot Vayomer. C'est ça les fameux Asara Mahamarot. C'est-à-dire, c'est un Mahamar. Et il faut entendre ces Asara Mahamarot face au Aseret HaDibrot, aux 10 paroles au moment de la révélation du Sinaï. Comme vous entendez, dans un cas il s'agit de Mahamar et dans un autre cas il s'agit de Dibour. Alors bien entendu, un Mahamar c'est beaucoup plus doux qu'un Dibour, mais la grande différence c'est que dans les Mahamarot en question, Hachem parle et il est tout seul, il s'adresse à personne. Tandis que dans Aseret HaDibrot, il s'adresse au Bnei Israël. Peut-être même il s'adresse au monde entier. Et donc c'est un dialogue Hachem va parler aux hommes, ensuite il va parler à Moshe Rabbeinu, et puis ça va donner quelque chose comme une forme de dialogue, on verra. C'est le grand dialogueur avec Hachem, ce sera bien entendu mon cher Abel. Qu'est-ce qui fait que on a passé de la Amira au Dibour? La transition, elle se fait avec les 10 Makot. Dans les Makot, c'est Moshe Rabbeinu, toujours par l'intermédiaire d'Aaron, c'est Moshe Rabbeinu qui parle avec Paro et qui essaye de faire bouger Paro pour qu'il obéisse à l'ordre d'Hachem qui est de laisser sortir Israël de Mitzrayim. Mais Paro, mon cher Abeno, j'ai encore quelques signes que je veux montrer à l'Égypte, où le man te s'appère, et aussi, je vais encore des choses à faire pour que tu racontes, le man te s'appère, pour que tu racontes, ma chanson si pour, à tes enfants, à tes petits-enfants, que tu leur racontes comment je me suis moqué de l'Égypte. Donc, il y a une fonction de raconter. La sortie d'Égypte. Raconter ce qui s'est passé. Cette histoire que les hommes vont devoir raconter, ça fait entrer les hommes dans le sujet, quoi. On parlait d'une situation où Hachem était seuls, les hommes vont être maintenant mêlés avec Hachem jusqu'à ce qu'Hachem leur parle à eux directement. Et tout ça, ils doivent le raconter et ça va faire l'objet d'une mitzvah, une mitzvah de Sippour de la sortie d'Égypte. C'est ce qu'on va faire le soir du Seder. Alors, comme je disais, tout a commencé parce que Hachem a donné au Bnei Israël une première mitzvah. La première mitzvah qu'ils ont reçue en tant que Bnei Israël, c'est la mitzvah de maîtriser le temps. Ils ont reçu un nouveau calendrier qui commence le mois Nissan. Et ils ont reçu cette halakha qui est que ce sont les Bnei Israël qui vont déterminer qui commence les mois. C'est-à-dire ils vont devenir les maîtres du calendrier, si vous voulez. Alors, entre parenthèses, cette maîtrise du calendrier, elle va être fondamentale dans la mesure où il va y avoir, pardon, il va y avoir des moadim, des rendez-vous entre Hachem et les hommes. Où les fêtes sont des moadim, des rendez-vous. Et les rendez-vous sont fixés par Hachem. C'est Hachem dit, voilà le 15 du mois de Tishri, Soukhot. Très bien. Mais c'est nous qui disons quand va tomber le 15, puisque c'est nous qui déterminons le premier. C'est nous qui décidons quand va être le premier du mois de Tishri. Et du coup, on détermine quand va être le 15. Donc ça veut dire que les rendez-vous avec Hachem,
Mais après, non, la porte, je dois la
ne sont pas des rendez-vous unilatéralement décidés. C'est pas que Hachem est seul à décider. Hachem décide de la date, mais la date, c'est nous qui la fixons.
rendez-vous.
Donc, d'une certaine manière, c'est des rendez-vous qui sont fixés par Hachem et par les Bnei Israël. Il y a un rôle important, si vous voulez, quelque chose qui va donner une importance au clan d'Israël. Il a des rendez-vous avec son Dieu, d'accord, qui sont partiellement décidés par lui aussi. C'est-à-dire, ça va s'inscrire dans une relation particulière d'Akadosh Baruch Hu avec les Bnei Israël. Cette relation particulière,
Non,
elle va, vous voulez bien fermer vos micros, s'il vous plaît.
pas le
Ne sais pas qui est-ce qui crie si fort là. Alors, cette
micro.
situation, voilà, vous allez m'entendre.
Ah, cette fois, c'est bon. Merci.
Merci.
Donc, Hachem propose aux Bnei Israël une alliance. Une alliance qu'ils acceptent sans qu'on n'ait pas connu du tout. L'alliance est quelque chose qui va avoir un contenu seulement 2 jours plus tard, c'est-à-dire quand la Torah va être donnée, quand Hachem va parler aux hommes. Donc ils se sont engagés, ils sont entrés dans une alliance sans savoir ce que cette alliance comportait comme obligation. Dans le droit juif, en fait, on ne peut pas s'engager avec un chèque en blanc. Il faut toujours qu'on sache à quoi on s'engage. La seule situation où quelqu'un peut s'engager sans savoir à quoi il s'engage, c'est quand quelqu'un s'engage comme esclave. L'esclave, quand il se vend comme esclave, il ne sait pas ce que son maître va lui demander. Et c'est dans cette situation-là que les Bnei Israël se sont engagés par rapport à Hachem. Bon, alors, Hachem était le maître d'une autre manière aussi, parce qu'il les avait achetés, il les avait récupérés, sortis de Paro, et ils étaient devenus ses esclaves à lui. Li Bnei Israël Avadim, les Bnei Israël sont mes esclaves, dit Hachem, et ne sont pas des esclaves d'esclaves. C'est l'alliance en question. Les Bnei Israël sont dans cette relation particulière d'alliance dans laquelle ils vont avoir beaucoup de responsabilités. On va y revenir. Je vous ai dit, la première mitzvah qu'ils ont reçue, c'est la maîtrise du temps. Pourquoi la maîtrise du temps? Parce que la caractéristique d'un esclave, comme on l'a vu souvent, c'est de ne pas être le maître de son temps. Et donc, quand on donne aux Bnei Israël qui sortent, enfin, qui sont même formellement encore esclaves au moment où ils reçoivent cette mitzvah, on leur donne la maîtrise du temps. Donc, quelque part, c'est une façon de les faire sortir de la condition d'esclave. La deuxième mitzvah qu'ils ont reçue, au même moment, ils ont reçu une obligation de choisir pour toute une maison, une maisonnée au sens plus large, de choisir un agneau et avec et d'exposer cet agneau. Et quand les Égyptiens vont leur demander, mais qu'est-ce que vous faites avec cet agneau? Leur dire, eh bien, on va en faire la shrita et on va le manger. C'est-à-dire, on va manger ton idole. L'agneau était une idole égyptienne. C'est une provocation et les Égyptiens ne peuvent rien faire, d'accord, devant cette énorme provocation. Ils doivent faire ça. Et puis, le 14, ils vont faire la shrita de l'après-midi de cet animal. Et le soir, ils vont le griller. Et ils vont le manger, avec des conditions sur la façon de le manger. Mais en même temps que de le manger, de manger cet agneau, ils vont manger des matzot et ils vont manger aussi des herbes amères. Et je me suis demandé, évidemment, Pessah, c'est la fête qui parle de la sortie de la condition d'esclave. Où est-ce qu'on voit dans ce Pessah Mitzrayim, ce Korban Pessah fait en Égypte, où on voit quoi que ce soit qui fasse référence à la sortie de la condition d'esclave. Le fait de manger l'agneau, c'est montrer qu'ils ne sont plus idolâtres. D'accord? On mange l'idole pour montrer que on n'est plus idolâtre. Mais les matzot, c'était la nourriture que les Égyptiens leur donnaient quand ils étaient esclaves. Et donc, il n'y a rien dans les matzot qui indique qu'on est sorti de la condition d'esclave. Alors, c'est un peu étonnant de voir que ce korban-là, qui est, si vous voulez, l'ouverture de l'opération sortie d'Égypte, c'est-à-dire sortie de la maison d'esclavage, n'a aucune dimension contre l'esclavage. Donc, ce n'est pas possible. Alors, il faut expliquer les choses de manière suivante. C'est vrai que le corban lui-même, l'agneau pascal, enfin, qui n'était pas vraiment encore un corban à ce moment-là, et que l'agneau, il fait référence à la sortie de l'idolâtrie. Mais les matzot qu'ils mangent, ils ne les mangent pas comme ils ont mangé les matzot quand les Égyptiens les donnaient. Ils mangent des matzot sur l'ordre d'Hachem. C'est-à-dire, en mangeant ces matzot, ils montrent qu'ils ont changé de maître. Le maître, c'était Paro, et maintenant le maître, c'est Hachem. C'est Hachem qui a donné l'ordre à matzot umrorim yochlu. Ils mangeront sur des matzot et des herbes amères. Par conséquent, on a deux choses. On a la sortie de l'idolâtrie et on a sorti de la condition, enfin de l'esclavage. Ça veut dire on a changé de maître et le maître des maîtres, ça n'est plus, c'est pas une idole, c'est un kadosh. Et quant aux herbes amères, en réalité, à partir du moment où on a reconnu que c'était Hachem qui était le maître, alors cette souffrance que représentent les herbes amères, C'est une souffrance qui a du sens. C'est pas quelque chose qui nous a été infligé pour nous faire mal, pour le plaisir de nous faire mal. C'est quelque chose qui a du sens. Et donc ça veut dire, c'est ça le commencement de la sortie d'Égypte. On va donner du sens à la souffrance. On va montrer qu'on a changé de maître et aussi qu'on a changé de maître des maîtres, qu'on a changé de divinité en fait. L'idée est que les Israël, la sortie de la condition d'esclave, ce n'est pas sortir de la condition d'esclave vraiment. Ils sont sortis de la maison d'esclavage. Des gens, des endroits où on les tenait eux en esclavage, c'était une maison d'esclavage, parce qu'en vérité, les Égyptiens aussi ils étaient esclaves de Pharaon à ce moment-là. Mais l'important, c'est qu'on a changé de maître, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un maître qui veut notre mal, Pharaon, on a un maître qui veut notre bien. Mais c'est un maître. Alors, il est un maître parce qu'il nous a en quelque sorte acquis. Quand il a été podé les bnei Israël, il a quelque sorte, comme s'il les avait rachetés à Pharaon. Les esclaves. Et donc, ce sont les siens maintenant. Alors, ça va être très important parce que ça va créer une obligation, en quelque sorte, aux Bnei Israël. Et donc, ça va leur permettre de faire confiance à Hachem. Parce que pour que la confiance commence, ben, il faut que on fasse confiance à quelqu'un parce qu'il a fait quelque chose pour nous, ou quelque chose qu'on admire, ou quelque chose, mais qui est en relation avec nous. Donc, les Bnei Israël, ayant été sauvés de l'esclavage par, de l'esclavage de Paro par Hachem, lui doivent la vie. Et donc, ils vont pouvoir construire une relation de confiance avec Hachem. Et c'est pour ça que les Bnei Israël vont être capables, parce que ça vient de Hachem, ils vont être capables d'entrer dans cette alliance qu'il leur est proposée sans qu'ils sachent quel est le contenu, sans que le contenu de l'alliance n'ait jamais été, au moment où il l'accepte, ce contenu n'a jamais été précisé. Cette histoire de contenu, comme vous savez bien, quand les Bnei Israël, quand Hachem a proposé la Torah aux Bnei Israël, la Torah nous dit que Hachem l'avait proposé préalablement à tous les peuples, qu'il avait refusé. Mais quand on zoome sur ce qui s'est passé, ça s'est passé comme ça. Hachem leur a proposé la Torah, et ils ont demandé qu'est-ce qu'il y a dans la Torah. En fait, quand ils ont demandé cela, ils avaient déjà perdu. Pourquoi? Parce que même s'ils avaient dit oui, on accepte. Ce qu'ils auraient accepté, ça n'est pas vraiment la Torah. Ils auraient accepté une loi au-dessus de laquelle ils se tenaient. Ils sont au-dessus d'elle puisque c'est eux qui jugent si elle est bonne, si elle est adéquate ou pas. Bon. Par conséquent, cette Torah qu'il aurait proposée, il demande qu'est-ce qu'il y a dedans. Ça veut dire que tu te mets au-dessus de la Torah. Donc même quand tu l'acceptes, c'est pas la Torah. La Torah, elle veut être au-dessus de tout. La Torah, elle veut être quelque chose de transcendant, si vous voulez. Quelque chose qu'on accepte et qui nous saisit avant qu'on ait même commencé à réfléchir à quoi que ce soit. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas accepter la Torah au sens habituel d'une acceptation. On ne peut que entrer dans cette relation dans laquelle on est avec Hachem et on est en confiance. On est en confiance parce qu'il nous a sortis là-bas, il est sorti de là-bas. Donc on peut faire confiance. Alors, les goïms qu'Hachem n'avait pas sorti d'Égypte, comment ils pouvaient faire confiance à Hachem? Ils devaient faire confiance, eux, au titre de la création. Eux, ils devaient faire confiance au fait que c'est Hachem qui a créé le monde, il est le créateur, et si lui propose quelque chose, parce que c'est lui le créateur, il faut l'accepter, parce que ça vient de lui. Les Bnei Israël ont un avantage, c'est que quelque part, il a déjà fait quelque chose pour eux directement. Mais ça, cette sortie d'Égypte qu'il a faite pour eux, en fait, Hachem a très clairement dit, je ne vous sors pas d'Égypte parce que vous avez pleuré, parce que vous avez eu mal, parce que vous avez prié. Je ne vous sors d'Égypte que parce que je l'avais promis à Abraham. C'est assez dur. Parce qu'en fait, les Bnei Israël, comme on avait déjà vu, ils n'ont aucun mérite à ce moment-là. Hachem va leur fabriquer. Hachem est obligé de les faire sortir, même si ça lui convient pas. Il s'est engagé à les sortir. Alors on peut dire peut-être que pour être digne, si vous voulez, d'être descendant, considéré comme descendant d'Avraham Avinu, il faut être capable. Pour pouvoir bénéficier quand même, il faut quand même être à un certain niveau. Il faut avoir fait quelque chose qui me qualifie non pas pour sortir, mais pour être considéré comme un descendant d'Abraham Avinu. Donc les Bnei Israël sont dans cette situation où ils ont reçu quelque chose qui les fait sortir formellement de la condition d'esclave. Ensuite, ils ont un statut différent, ils sont sortis de l'idolâtrie et ils ont changé de maître et ils sont capables de donner du sens à leur souffrance. Grâce à cela, ils vont pouvoir sortir d'Égypte. Ils se sont en quelque sorte qualifiés pour sortir d'Égypte. Ils sortent, et curieusement, pour revenir un peu sur ce qu'on avait dit, en fait, on se serait attendu à ce que dans la Torah, ce soit marqué que les Bnei Israël ont. On fait confiance. Il y a Aminu Bachem ou Moshe Avdo, ils auraient pu le dire au moment où ils sortent d'Égypte. Pourquoi est-ce qu'ils ne le disent que après le passage de la mer? Alors, la réponse standard, c'est que tant qu'ils n'avaient pas franchi la mer, ils n'étaient pas vraiment sortis d'Égypte. C'est une réponse. Elle n'est pas complètement satisfaisante pour la raison suivante. Vous savez, le soir du Seder, on boit 4 coupes de vin. Ils correspondent à 4 expressions qui décrivent la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte s'est faite progressivement, plusieurs niveaux de relation avec Hachem. Et ce qui est curieux, c'est que le quatrième vers, On le voit par rapport à un verset qui ne parle pas du tout de la sortie d'Égypte, mais qui parle du don de la Torah. Et ça vient nous enseigner la chose suivante. Les nés d'Israël, quand ils sortent d'Égypte, ils deviennent libres. Comment il y a deux sortes de liberté. Il y a la liberté de, être libéré de, il y a être libéré pour. On peut être libéré de l'esclavage, auquel cas on est libre, et on peut être libéré pour, c'est-à-dire on peut être libéré pour recevoir la Torah. Bon, ça, c'est notre condition. Les Israélites n'ont pas été simplement libérés, ils ont été libérés pour quelque chose, pas simplement pour ne plus être esclaves. Alors, bien que la Torah représente des contraintes, mais ce sont des contraintes qui sont absolument fondamentales, comme on le voit par exemple quand vous regardez un violon et que vous regardez la corde, une corde, vous voyez que cette corde, elle va donner de la musique. Pourquoi? Parce qu'elle est tendue, elle est contrainte. Si vous enlevez cette corde du violon et vous la posez sur la table, elle sera parfaitement libre, mais il n'y aura pas beaucoup de musique. Donc c'est ça. Donc il n'y a pas de musique. Il y a pas de contraintes, c'est vide, et du coup on est obligé de chercher des pour. Inventer n'importe quoi pour se remplir, en fait. Alors, bien entendu, cette idée que on accepte parce qu'on croit, si on interprète cette acceptation, parce qu'en disant que les Bnei Israël, quand ils ont accepté ils ont cru en Hachem, alors on arrive à une impasse, parce que du coup toutes les sectes racontent ce genre de choses. Il faut croire, moi, croire. La différence, c'est que dans la Torah, il ne s'agit pas de croire, il s'agit de faire confiance. La notion d'Emouna, elle ne dit rien de l'existence. C'est pas l'existence d'Hachem dans la Torah, ça n'a jamais fait un pli. C'est sûr que ça, ils se sont jamais posé la question. Le problème, c'est est-ce qu'on lui fait confiance? Il existe, mais est-ce qu'on lui fait confiance? Et Hachem, chaque fois qu'Hachem dit dans la Torah, Ani Hachem, regardez Rashi, et Rashi vous explique, Ani Hachem, ça veut dire on peut me faire confiance. Faire confiance que je récompense pour le bien et je sanctionne le mal, etc. C'est toujours Emouna, c'est un problème de confiance. Or, la confiance, c'est quelque chose qui se construit. Ça se construit petit à petit. On fait un peu confiance et quand on voit que la confiance était bien placée, on fait un peu plus confiance. Là, c'est toujours. On avait raison d'avoir fait confiance, on avance encore un peu. Mais des fois, la confiance peut être trahie, du coup, on recule complètement, etc. Ça veut dire, la confiance, il n'y a pas de confiance absolue, sauf en Hachem. La seule chose où on peut faire une confiance absolue, c'est en Hachem. Parce que, comme on dit dans le Hallel plusieurs fois, l'Iftoar, Adam, l'Iftoar, Divim, etc. Il y a toutes sortes de circonstances qui peuvent faire que quelqu'un, même avec la meilleure volonté, il ne peut pas réaliser la promesse. On lui a fait confiance, mais il ne peut pas y arriver quelque chose. Le seul qui peut toujours, c'est Hachem. Par définition, il ne peut pas y avoir de confiance dans quelqu'un qui est limité. Parce que sa limitation, elle fait qu'il ne pourra pas obligatoirement être à la hauteur de ce à quoi il voulait vraiment faire confiance. Je ne vois pas des gens qui ne voulaient pas vraiment faire confiance. Il voulait faire confiance, mais il arrivait quelque chose et il n'a pas pu. Donc le problème de la croyance, il ne s'est jamais posé dans la Torah. C'est seulement un problème de confiance. Et justement, on voit très bien en l'existence, c'est le gens qui ne sait pas. Hachem. D'ailleurs, c'est à ce point-là une mauvaise question, un nouveau problème, c'est que d'Hachem, on ne peut ni dire qu'il existe, ni dire qu'il n'existe pas, on ne peut rien dire du tout. Donc la question de l'existence, elle ne se pose jamais. Par définition, dans une idole, on peut dire elle existe ou elle n'existe pas, mais d'Hachem, on ne peut rien dire du tout. Par définition. Donc, les Bnei Israël ont reçu cette sortie d'Égypte au sens où sont devenus maîtres du temps, de leur temps. Ça, c'était aux grandes dames des Grecs. Les Grecs, ils ne pouvaient pas imaginer qu'on puisse être maîtres du temps. Donc, c'est ce qui fait que quand les Bnei Israël parlait de cette maîtrise du temps, ça voulait strictement rien dire. Il pensait que c'est n'importe quoi. Et puis ensuite, avec le corban qu'ils ont fait, ils ont montré, ils avaient coupé avec l'idolâtrie, ils ont montré qu'ils avaient un autre maître. Ils ont montré qu'ils arrivaient à donner du sens à leur souffrance. Et du coup, il y a encore un point sur lequel je voulais insister, c'est que la différence qu'on avait entre les Mahamarot et il y a un interlocuteur. C'est-à-dire, Hachem parle aux hommes. Et donc, si vous voulez, il y a ce qu'Hachem dit et il y a ce que les hommes entendent. Qui n'est pas obligatoirement la même chose. On n'entend pas obligatoirement tout ce qu'Hachem peut dire. Et du coup, quand les Chachamim ont décidé que le récit se ferait obligatoirement sous forme de questions-réponses, c'est pour qu'il y ait justement un interlocuteur, quelqu'un qui raconte, et il le raconte à quelqu'un qui va évidemment lui poser des questions, qui va réagir à ce qu'il va dire. C'est tellement important que même si quelqu'un est tout seul, il faut aussi qu'il se pose des questions et se réponde. Qui est purement formel à ce moment-là. Mais c'est ça la forme standard. Qu'est-ce qui a permis le passage des Asaret Ha-Maamarot vers les Aseret HaDibrot? C'est les Eser Makot. C'est les Makot. Dans les Makot, par opposition à ce qu'il y avait au départ où Hachem parlait tout seul, maintenant, Hachem parle, mais en fait, il fait parler les hommes et il fait jouer aux hommes ce double, enfin, les hommes en question, c'est Moshe et Aaron, un rôle du Dieu qui parle à un homme, qui est le prophète, et le prophète, il joue son rôle de prophète, il répercute ce qu'on lui a dit de dire. Donc quelque part, ça fait entrer les hommes dans le jeu. C'est Hachem qui les manipule, si on peut parler comme ça. Il leur a donné l'ordre de faire tout ça. Et du coup, après, au Sinaï, Hachem va leur parler. Et à ce moment-là, ils sont libres de recevoir ou de ne pas recevoir la parole. Et à un moment donné, ils disent, on n'est pas capable de recevoir la parole. C'est trop dur pour nous. C'est trop bouleversant. On a toujours dit que la parole de la Torah, si elle n'est pas bouleversante, ce n'est pas une vraie parole de Torah. D'où est-ce qu'on le sait? On le sait de là, de Sinaï. Les Bnei Israël, quand ils entendent la parole d'Hachem, ils meurent. Ils sont projetés en arrière, ils meurent, ils ressuscitent dans un nouvel état, puisque maintenant la parole qu'ils ont entendue est en eux. Et si on avait entendu les 10 paroles d'Hachem, a priori, l'histoire était terminée. Parce qu'on n'aurait plus pu transgresser quoi que ce soit. Puisqu'on avait les paroles d'Hachem en nous. Cette tension énorme, quoi. La troisième fois, ils ont dit, on n'est pas sûr de revivre. On ne veut pas prendre le risque de mourir. Donc, ils ont dit à Moshé, c'est toi qui tu vas nous parler. Hachem va te parler à toi. Donc, les Bnei Israël ont installé plutôt Moshé en intermédiaire. Donc, il est devenu celui grâce auquel il y a une communication possible avec Hachem. Et c'est ça le grand presque malheur. Parce que du coup, quand Moshe Rabbeinu n'était pas là au 40e jour, d'après le compte des Bnei Israël, ils ont complètement paniqué. On n'a plus personne. Il n'y a plus d'intermédiaire entre. Donc on ne peut plus parler avec Hachem. On ne peut plus entendre la parole d'Hachem. Moshe n'est plus là. Ils ont demandé tout de suite un remplaçant de Moshe. Mais il ne savait pas comment l'installer, comment lui donner la force de jouer ce rôle. Et ça a dérivé et c'est devenu le veau d'or. Et surtout, le problème, c'est que quand Moshe n'est pas revenu à l'heure à laquelle il s'attendait à ce que Moshe revienne, ils ont dit, Haïch Moshe, l'homme Moshe. Donc là, c'est clair, ils ne le divinisent pas encore, ils disent c'est un homme. Mais ils disent, l'homme Moshe qui nous a sortis d'Égypte, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Ils disent que c'est Moshe qui nous a sortis d'Égypte. Et ça, c'est faux. C'est Hachem qui nous a sortis d'Égypte. C'est ce que nous disons dans la Haggadah. D'accord? C'est personne. Le Al-Yedé Shliach, le Al-Yedé Malach, le Al-Yedé Saraf, c'est-à-dire d'aucune des manières où dans l'histoire, des esclaves se sont libérés, c'était ni un tsunami, ni un changement de dynastie, ni une guerre, ni quoi que ce soit, ni la décolonisation, ni rien du tout, rien de tout ce qui a entraîné la libération d'esclaves. Ou que ce soit, rien de ce qui pourrait par la suite entraîner, Hachem dit, c'est moi. Mais dire c'est moi, c'est dire, tu ne comprendras pas. Tu ne peux pas comprendre ce que j'ai fait ici. Parce que personne ne peut comprendre comment on peut sortir tant de monde en si peu de temps. D'Égypte. Bon, c'est des millions de personnes. Donc, c'est pas possible de sortir comme ça. Mais c'est ce qu'Hachem dit. C'est moi, donc vous ne pouvez pas comprendre. Toutes les explications, Saraf, Shliach, toutes ces explications-là n'en sont pas. C'est moi, dit Hachem. C'est tellement important que le rédacteur de la Haggadah, il a fait attention de ne pas mentionner le nom de Moshe dans la Haggadah de Pessah. Faut quand même le faire. C'est pas Georges Perec, mais quand même, c'est pas mal. Faire toute une Haggadah sans mentionner Moshe. Voilà, on va s'arrêter là.